Laudetur Jesus Christus.
Première prédication de carême du cardinal quant à la messa au Vatican ce vendredi. Le prédicateur de la maison pontificale s'est arrêté sur le thème de la conversion. Le compte-rendu en détail au début de ce journal. De nombreux Birmans toujours mobilisés, campagnes de désobéissance civile et manifestations pacifiques se succèdent malgré les menaces de la junte. Nous retrouverons notre correspondante à Rangoon. Dans ce journal également, l'armée érythréenne accusée d'un massacre en mois de novembre dernier dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie. C'est ce que révèle un rapport de l'ONG Amnesty International ce vendredi. Et puis l'Arménie est toujours coupée en deux entre les partisans du Premier ministre Nicole Pachinian et l'opposition qui demande son départ. Depuis hier, le bras de fer entre le gouvernement et l'armée arménienne est revenu au cœur des débats.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Au Vatican, les exercices spirituels se poursuivent. Ce vendredi avait lieu la première prédication de carême du cardinal quant à la messa, le prédicateur de la maison pontificale. Avant de commencer un nouveau cycle thématique qui sera déployé en trois temps, les 5, 12 et 26 mars prochains, le religieux capucin s'est penché ce matin sur le thème de la conversion avec cette parole tirée de l'évangile de dimanche dernier. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le compte-rendu de Cyprien Viette.
Cette idée de conversion revient à trois reprises dans le Nouveau Testament, avec des sens relativement différents. Avant Jésus, la conversion signifiait toujours un retour en arrière. Elle indiquait la démarche d'une personne qui, à un certain moment de sa vie, se rend compte qu'elle a fait fausse route. Mais sur les lèvres de Jésus, ce sens change. Se convertir ne signifie plus revenir en arrière, à l'ancienne alliance et à l'observance de la loi, mais plutôt faire un saut en avant et entrer dans le royaume, saisir le salut qui est offert aux hommes gratuitement par l'initiative libre et souveraine de Dieu, a expliqué le cardinal Capucin. Une deuxième occurrence du thème de la conversion intervient dans le passage de l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit à ses disciples « Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Plutôt que de s'accrocher à des honneurs ou à des responsabilités, le devoir de chaque vrai disciple est donc de retrouver l'innocence du premier appel et de se décentrer de lui-même et se recentrer sur le Christ. Le troisième contexte dans lequel revient l'invitation à la conversion est donné par les sept lettres aux églises de l'Apocalypse, avec l'idée de se convertir de la médiocrité et de la tiédeur. Il ne s'agit pas seulement de multiplier les efforts d'ascétisme, mais de se laisser toucher par la grâce. Comme dans les noces de Cana, il faut que l'eau de notre tiédeur devienne le vin d'une ferveur renouvelée, a conclu le cardinal quant à la messa.
Cyprien Viette, et plus d'informations à retrouver en détail sur cette prédication de carême sur notre page et sur notre site, bien sûr, vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, la Birmanie où le mouvement de contestation se poursuit contre la junte militaire. De nombreux fonctionnaires birmans appellent à la désobéissance civile, faisant tourner au ralenti les administrations depuis plusieurs jours. Ce matin encore, plusieurs manifestations pacifiques avaient lieu à Rangoon, la principale ville du pays. Rangoon où nous retrouvons notre correspondante Juliette Verlin.
Les manifestations pacifiques ont pris une nouvelle tournure à Rangoon ce matin. Au carrefour de Miningon, les rassemblements ont été dispersés au gaz lacrymogène, puis les policiers se sont placés en ligne au milieu des grands axes pour en barrer l'accès. Ils diffusent au haut-parleur un message demandant aux manifestants de ne pas se rassembler à plus de 5 personnes, un rappel étrange de la loi martiale qui est passée il y a pourtant plus d'une semaine et qui était restée sans effet auprès des manifestants. Au début, la circulation restait hésitante autour des barrages de police. Les quelques manifestants qui étaient encore là surveillaient leurs faits et gestes pour savoir s'ils pouvaient rester et filmer ou s'ils devaient fuir. Internet n'est pas coupé, donc tous ces événements sont retransmis en direct sur Facebook dans toute la ville. Après quelques minutes, la police a commencé à avancer dans plusieurs rues voisines. Les manifestants ont donc pris la fuite. Certains ont voulu se réfugier dans des centres commerciaux qui fermaient tout juste leurs grilles. D'autres sont partis dans des petites rues adjacentes. En fuyant, ils jetaient des bidons d'eau vide ou des bouts de bois pour tenter d'entraver l'avancée de la police. Et autour des manifestants en fuite et des policiers qui avancent, on entend les voitures qui klaxonnent sans interruption pour montrer leur colère. Tout le monde a en tête les manifestants tués à Mandalay et à Naypyidaw, et on se demande si des coups de feu vont finir par être tirés ou non à Rangoon. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
Après avoir retiré une partie de leurs troupes la semaine passée, l'Inde et la Chine discutent d'une nouvelle désescalade à leurs frontières communes dans l'Himalaya. Les ministres des Affaires étrangères des deux voisins se sont entretenus au téléphone ce vendredi, les deux parties qui se félicitent que la situation se soit sensiblement améliorée dans la région. C'est un massacre loin des regards. Dans un rapport publié ce vendredi matin, l'ONG Amnesty International dénonce une tuerie de masse dans la province éthiopienne du Tigré. Les exactions auraient eu lieu à Aksum, la troisième ville de la région. Le Tigré qui est toujours en proie au combat, mais son territoire étant bouclé, il est bien difficile d'y mener une enquête sur le terrain. L'ONG dénonce néanmoins la mort de centaines de civils par l'armée érythréenne venue en soutien à l'Éthiopie contre les combattants indépendantistes tigréens. Les explications de notre correspondant en Éthiopie, Noé Ochebaudin.
C'est une tuerie de masse, une punition collective qui se serait abattue sur Aksum en novembre, selon le consultant Jean-Baptiste Galopin, qui a collaboré avec Amnesty International.
Un massacre qui a eu lieu durant environ 24 heures, les 28 et 29 novembre, de la part des troupes érythréennes, en réaction à une attaque d'un petit groupe de combattants sur une base érythréenne dans la ville d'Aksum.
Difficile pour l'heure d'établir un bilan, mais l'ONG l'estime à plusieurs centaines de morts. On le rappelle, mener l'enquête est un vrai casse-tête, car la province du Tigré est encore largement coupée du monde, sans véritable accès ni télécommunication. Amnesty International parle de multiples crimes de guerre commis à Aksum.
Le massacre, ça a été la culmination d'une série de violations qui a été précédée de bombardements indiscriminés et également suivie d'exécutions extrajudiciaires. Durant cette période, les forces érythréennes ont également pillé la ville d'Aksum à grande échelle et de manière vraiment systématique.
L'ONG demande la tenue d'une enquête diligentée par les Nations Unies. Le gouvernement éthiopien a déjà refusé au mois de décembre. Il estimait ne pas avoir besoin, je cite, « de babysitters pour mener des enquêtes indépendantes ». Addis Abeba, Noé Ochebaudin, Radio Vatican.
Au Cameroun, ce sont d'autres exactions, cette fois-ci dénoncées par Human Rights Watch. L'armée camerounaise est pointée du doigt. Au moins 20 femmes, dont 4 d'entre elles handicapées, ont été violées. Un homme tué, 35 autres arrêtés le 1er mars 2020 dans une attaque contre le village d'Ebam. C'est dans une des régions anglophones au sud-ouest du pays, selon l'ONG. Un nouvel enlèvement de masse dans une école du Nigeria. 300 adolescentes sont toujours portées disparues après l'attaque la nuit dernière d'un pensionnat par des hommes armés. Ça s'est passé dans l'ouest, dans le nord-ouest du pays. On ne connaît toujours pas l'identité des ravisseurs, mais il pourrait s'agir de bandes criminelles qui agissent au nom du groupe terroriste islamiste Boko Haram. L'Arménie est toujours en plein chaos politique depuis les manifestations d'hier menées par le Premier ministre Nicole Pachinian qui a limogé son chef d'état-major. L'opposition campe toujours dans le centre de Yerevan et demande sa démission. La situation est toujours très indécise dans le pays. Le bras de fer entre l'armée et le pouvoir est né d'un différend sur l'utilisation de missiles russes lors de la guerre dans le Haut-Karabakh. À Yerevan, notre correspondante Amsik Karakelian.
Le ministère de la Défense de la Russie a annoncé que d'après leurs sources d'information, l'Arménie n'a pas utilisé les systèmes de missiles balistiques russes Iskander pendant la guerre du Karabakh. Bien que le premier ministre arménien ait dit lors de son entretien que les missiles se sont avérés inutiles, car certains ont été explosés avec 10% de leur capacité et les autres n'ont pas été explosés du tout. L'opposition continue à accuser Nicole Pachinian que son gouvernement n'est pas capable de gérer le pays et le faire sortir de la crise après la guerre. Les manifestants ont passé la nuit devant le bâtiment du Parlement sous les tentes bâties au milieu de l'avenue Bahramian. Et il y se trouve toujours. Les partisans de l'opposition scandent Arménie sans Nicole, Nicole traître, et trouvent que l'accord tripartite du cessez-le-feu que le premier ministre avait signé le 9 novembre dernier est un acte de la capitulation. À Yerevan, Hasmi Karakelian pour Radio Vatican.
Et puis Paris a réagi ce vendredi à la crise arménienne. La France souhaite que le dialogue puisse s'instaurer dans ce pays en s'appuyant sur la légitimité du président Armen Sarkissian et du premier ministre. Les éléments de la démocratie arménienne doivent tenir le coup. Déclaration ce matin du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lors d'une conférence de presse tenue aux côtés de son homologue ukrainien. En Russie, l'opposant Alexei Navalny transféré vers une colonie pénitentiaire. Il a quitté hier sa prison à Moscou. Il était détenu depuis son retour au pays à la mi-janvier. Le médiatique opposant à Vladimir Poutine qui doit purger une peine de 2 ans et demi derrière les barreaux. Un membre présumé du Hezbollah, le parti chiite libanais, sera jugé au mois de juin prochain pour sa responsabilité présumée dans 3 attentats contre des hommes politiques. Il s'agit de Salim Ayash, 57 ans, déjà condamné dans l'attentat de Rafik Hariri en 2005. Il comparaîtra devant le tribunal spécial pour le Liban, basé à La Haye. C'est la première fois que ce tribunal international jugera une autre affaire que celle liée à la mort de l'ancien Premier ministre. Et puis un mot de France où le Premier ministre Jean Castex s'est rendu ce matin en visite à la cathédrale de Nantes. Tout touchée au mois de juillet dernier par un incendie criminel. L'occasion de faire le point sur les travaux de restauration en cours. L'État français qui s'est engagé à débourser 10 millions d'euros pour aider le chantier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information reviendra comme chaque jour à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi et un très bon week-end.